Bonjour à tous et à tous. En effet, 3 ans, hein, à peu près, peut-être plus. Je ne me rappelle plus exactement quelle était ma dernière visite, mais on a tous vécu une période particulière. Pour ma part, qui n'a pas été trop frustrante, c'était différent, mais on a vécu de belles choses, que ce soit en famille, dans l'église de Paris, dans les églises. Et donc Dieu a utilisé ça, vous en êtes conscient, je pense, pour travailler dans notre cœur, nous remettre en question. Chaque jour est important et on croit que tout va durer éternellement, mais en fait, il n'y a que la parole de Dieu qui va durer éternellement. Et puis, un royaume à venir. Mais ici, les choses passent. Alors, des fois, elles reviennent. Là, on peut de nouveau se retrouver. Mais on est tous conscients qu'on vit dans un monde de plus en plus instable. Et en tout cas, on en est plus conscients. Et ça nous permet de réfléchir un peu à l'existence et de se dire, c'est aujourd'hui que je vis, c'est la journée que j'ai à vivre. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur, aujourd'hui? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de projets à faire ou à voir, mais de ne pas passer à côté de ce que Dieu nous offre maintenant. Et lors du temps de questions-réponses cet après-midi, j'aurai peut-être l'occasion de vous donner un peu plus de nouvelles de l'Église de Paris, beaucoup de projets, beaucoup de choses. Et c'est assez enthousiasmant. Mais on va continuer notre étude d'un extrait de Matthieu 15, mais avant cela, nous allons prier. Père Céleste, merci de bénir ta parole maintenant. On te remet, Seigneur, les minutes qui suivent, qu'on sait que tu utilises souvent ta parole, la prédication, pour toucher notre cœur. Et on s'attend à toi, Seigneur. Et merci de bénir cette assemblée, Pasteur Tony, qui est en charge de cette église. Merci de le conduire en toute sagesse, Seigneur, dans les mois qui viennent. Et on te remet chaque personne ici présente. Tu connais nos fardeaux, nos difficultés, nos forteresses, nos points aveugles dans notre existence. Tu connais aussi les dons que tu nous as donnés, l'appel que tu as sur notre vie. Tu connais le nombre de jours qui nous reste à vivre. Bref, Seigneur, on s'en remet entièrement à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons relire Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Matthieu 15, versets 21 à 28. Cet épisode où vous avez cette femme cananéenne qui vient vers Jésus parce qu'elle a un besoin immense. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je m'arrêterai durant ma lecture pour rappeler certains points que nous avons vus hier matin et hier après-midi. Et puis nous allons continuer dans le déroulement de la pensée là que nous permet d'avoir ce texte. Donc Matthieu 15, versets 21 à 28. « Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. » Donc nous avions vu que ce détail est très important dans le sens où Jésus est venu principalement pour prêcher en Israël, sur la Terre Sainte. Et là, il y a un épisode déjà qui est un peu étonnant, c'est qu'il se retire en territoire païen. Il n'est plus en Israël. Donc ça peut paraître déjà un peu troublant pour les disciples ou pour les lecteurs juifs qui seraient amenés à lire ce passage. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Donc là, deux choses, nous voyons que une femme cananéenne est là. Et il faut savoir que sous Josué, le peuple de Dieu avait désobéi à un des ordres donnés par l'Éternel, c'est que les Cananéens devaient être voués par interdit, c'est-à-dire que le peuple devait être entièrement détruit, et Josué n'avait pas été jusqu'au bout du commandement de Dieu. À partir du moment où ils avaient conquis la terre, partagé le territoire, ils s'étaient arrêtés en chemin, et donc cette femme est la descendante de ces Cananéens qui avaient été d'une certaine manière épargnés par Josué, mais contre la volonté de Dieu. Et déjà, ça doit nous amener à une réflexion. Non pas qu'on puisse tout comprendre de ce que Dieu fait, mais en même temps constater ce que Dieu fait. C'est-à-dire que dans un premier temps, quelques siècles plus tôt, Dieu demande à ce que les Cananéens soient entièrement détruits. Alors, dans la pensée humaniste contemporaine, ça peut paraître choquant qu'une fois qu'une bataille est terminée, on puisse aller jusqu'à tuer la population civile, femmes, enfants, tout le monde. Mais il faut comprendre que Dieu, par ce genre d'ordre, veut montrer jusqu'à quel point il hait, du verbe haïr, le péché. Il ne faut pas oublier que les Cananéens avaient reçu la grâce de Dieu, eux aussi. Rappelez-vous, au temps d'Abraham, Dieu avait dit à Abraham que le pays de Canaan allait être la possession d'Israël, mais pas tout de suite, parce que l'iniquité des Cananéens n'était pas arrivée à son comble. C'est-à-dire qu'ils péchaient, mais ils avaient possibilité de se repentir, ils avaient possibilité de changer de point de vue. Et Dieu leur laissait du temps. Mais dans sa préconnaissance, Dieu savait que ce temps allait être mal utilisé. Donc il a promis à Abraham que quelques siècles plus tard, ses descendants posséderaient le pays. Donc c'est intéressant de voir comment Dieu gère les individus dans le temps présent, et en même temps il a une vision globale des choses. Mais une fois que ce temps était passé, c'était trop tard. Ce peuple devait être entièrement détruit. Et pourquoi ? Déjà, je peux vous donner une indication. Ce peuple passait par le feu leurs propres enfants. C'est-à-dire, pour obtenir la bénédiction des idoles, ils sacrifiaient leurs propres enfants. Et donc, c'est principalement ce péché-là que Dieu voulait éradiquer complètement. Entre parenthèses, ne vous étonnez pas si dans notre société dite occidentale aujourd'hui, ne vous étonnez pas si Dieu amène un jugement, parce que nous sacrifions, nous aussi, nos enfants, sur l'autel d'autres idoles. L'autel du consumérisme, l'autel de l'égoïsme, l'autel du matérialisme, l'autel de le bien-être de soi, mais au détriment des enfants. En France, c'est à peu près 200 000 à 230 000 enfants qui meurent par avortement chaque année. Donc ça, c'est l'autel, c'est un sacrifice aussi. Alors, c'est une autre forme d'idolâtrie. Ça peut s'appeler Manon, le dieu de l'argent, enfin le matérialisme, tout ce que vous voulez. Donc il ne faut pas croire que les autres sont, dans l'Antiquité, étaient méchants et que nous sommes des gens bien. Simplement, c'est décliné sous une autre forme, une autre manière. Et donc Dieu avait décidé cela. Néanmoins, Israël, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'avait pas été jusqu'au bout de cet ordre divin. Et c'est là où on voit que Dieu, dans sa sagesse, est en contrôle de toute chose. C'est que ces Cananéens restés vivants ont eu des descendants jusqu'à cette femme. Et cette femme va être sauvée. Nous allons être avec cette femme dans l'éternité. Ce n'est pas simplement un roman là, que nous sommes en train de lire. Cette femme cananéenne a cru, et nous avons cru, et nous allons être ensemble dans l'éternité. C'est beau de penser à ça. J'aime bien, moi, des fois, mettre les points sur le i, comme on dit, parce que parfois, ce qu'on lit dans la Bible peut être un peu impersonnel ou pas concret. Mais c'est une femme qui vivait réellement. Il y a du sang qui a coulé dans ses veines. Elle pensait, elle avait ses soucis. Elle a rencontré le Messie. Puis un jour, elle est morte, de façon évidente. Mais elle va ressusciter. Et nous allons la voir, cette femme, un jour. C'est-à-dire que parmi ces Cananéens qui auraient dû être détruits, la grâce de Dieu est venue. C'est-à-dire que Dieu va même utiliser parfois la désobéissance des hommes pour sauver. Dieu, dans sa souveraineté, aurait très bien pu dire « Mon peuple n'a pas obéi, mais moi je le ferai à leur place. » C'est-à-dire qu'aucun descendant des Cananéens ne sera sauvé. Il aurait pu décider ça. Mais ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Maintenant, comment il contrôle la désobéissance de ses enfants, la désobéissance des peuples païens, sa volonté, sa préconnaissance. Nous, on ne comprend pas tout, mais on ne peut que constater. On constate, il y a la volonté de Dieu, il y a la volonté parfaite, il y a la volonté permissive, et puis il y a la volonté de Dieu qui consiste à racheter, et notamment une âme, une femme. Et Jésus est venu dans le territoire de Tyr et Sidon pour se retirer et puis aussi pour enseigner quelque chose, c'est-à-dire qu'il enseigne quelque chose à ses disciples. On arrive dans une autre période où il va montrer que les païens peuvent aussi être sauvés. Et ensuite, on voit que cette femme avait un souci, et elle crie à Dieu parce qu'il y a un démon qui tourmente sa fille. Et c'est vrai qu'en tant que parent, c'est la plus grande souffrance qu'on puisse avoir, d'avoir un enfant qui souffre, mais en plus de ça, qui souffre à cause d'un démon. Parce que vous ne pouvez rien faire contre un démon. Les esprits angéliques sont plus puissants que la nature humaine. Par Dieu, on peut vaincre les ennemis du royaume ténébreux, mais sans Dieu, on ne peut rien faire. Et cette femme ne pouvait rien faire. Elle ne connaissait pas Dieu, elle n'avait pas la puissance de Dieu avec elle. Et donc, au verset 23, il est dit « Il ne lui répondit pas un mot, Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Donc on en a parlé hier soir. Ça, c'est caractéristique un petit peu des disciples novices. Ils veulent garder le maître pour eux. Ils ne veulent pas partager, un peu comme les enfants jaloux. « C'est mon jouet, c'est à moi, c'est ma maman. Tu donnes un câlin à mon frère, mais moi j'en veux 10. C'est à moi. » Et donc là, les disciples, il y a un peu un esprit de clan. Un peu différent peut-être des pharisiens, mais en même temps semblable. Les pharisiens, eux aussi, pensaient que Dieu était que leur Dieu à eux et que ça ne pouvait pas être le Dieu des païens. Eux aussi voulaient en fait s'approprier ou garder pour eux la bénédiction. Et là, c'est un peu la même chose pour les disciples. C'est, allez, chasse-la. Et on voit que par son silence, Jésus est en train de révéler les cœurs. Il révèle le cœur de cette femme, parce qu'on va voir jusqu'où elle va aller malgré le silence, et même malgré une forme d'opposition. Et puis, le silence permet de révéler le cœur des disciples. Et comme je disais hier soir, du coup, les disciples ont fait du bruit. Dieu gardait le silence en Jésus-Christ, mais les disciples, eux, avaient des bonnes idées. Ils parlent. Et donc, ils disent, voilà, renvoie-la. C'est intéressant, on voit plusieurs fois dans les évangiles les disciples, les apôtres, donner des ordres à Dieu. Hein, c'est tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. Pierre qui dit tu iras pas à la croix. Mais on peut être parfois, on peut se comparer de la même manière des fois. On a tendance à dire à Dieu ce qu'il faut faire parce qu'on croit tout connaître ou peut-être parce que on a une convoitise ou une façon de penser. Mais accepter la souveraineté de Dieu, c'est autre chose. C'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Non pas ma volonté, mais la tienne. Donc c'est particulier la sanctification. Dans un premier temps, on connaît Dieu, mais on le connaît mal et on a tendance à lui dire ce qu'il faut faire. Et plus on avance dans la vie chrétienne, si on avance sur le sentier étroit, le sentier de la croix, on commence nous-mêmes à garder le silence et laisser Dieu parler. Les novices parlent beaucoup, savent tout, et Dieu ne sait pas, les pasteurs ne savent pas, les croyants mûrs ne savent pas. Eux savent. Mais avec le temps, on apprend, nous, à garder le silence et à laisser la sagesse parler. Soit la sagesse de Dieu directement, soit la sagesse de ceux qui ont plus de sagesse que nous. Proverbe nous le dit, hein, que nos paroles soient peu nombreuses sur la terre. Jésus dit que nous serons jugés sur les paroles que nous aurons prononcées. Souvent, nous nous concentrons sur les actes que nous faisons, bien ou mal. Ce qui est bien, il faut se remettre en question à ce niveau-là. Mais les paroles aussi seront mises sur la table au tribunal de Christ. Et donc, verset 24, Jésus se met à parler. Il répondit, « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc nous allons reprendre maintenant le cours de cette étude et nous attarder déjà sur le verset 25. Le verset 25, on voit qu'il y a une évolution dans son rapport avec Jésus-Christ. Au verset 24, Jésus dit, « J'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël. » Et on le sait dans les évangiles, il y a une progression dans le ministère de Jésus, une évolution même, je dirais, où dans un premier temps, il va en effet s'adresser aux brebis perdues de la maison d'Israël, et puis ensuite, progressivement, il va s'adresser aux nations païennes, jusqu'à Matthieu 28, par exemple, où il va dire à ses apôtres, « Allez de par le monde, faites des nations des disciples. » Donc il y a une évolution. Plus le rejet d'Israël s'intensifie, et on voit de façon évidente qu'il refuse de reconnaître en Jésus le Messie, le Sauveur du monde, et du coup, le message se tourne vers les païens. Et ce qui nous amène d'ailleurs aujourd'hui, dans l'Église, à pouvoir annoncer l'Évangile à quiconque, de façon uniforme, je dirais. Bien sûr, on parle d'abord à nos prochains qui sont à côté de nous, mais on est prêt aussi à aller à l'autre bout du monde. C'est que tout le monde a la possibilité d'être sauvé. Le bras de Dieu, maintenant, va jusqu'à moi, va jusqu'à vous, va jusqu'aux confins de la terre. Et encore une fois, de façon indifférenciée. Quand je dis indifférencié, c'est qu'on va évangéliser des hommes et des femmes, pas plus des hommes que des femmes, c'est on évangélise les deux, des vieux ou des jeunes, mais aussi on évangélise des gens de toutes nations. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus ni juif ni grec, comme dit Paul aux Galates. Je le redis, il n'y a plus ni juif ni grec. Ne soyons pas comme les pharisiens et rentrer dans un christianisme où on pense que les juifs aujourd'hui ont quelque chose de supérieur aux chrétiens non-juifs. C'est un mensonge, c'est une hérésie. Il n'y a pas de privilège particulier pour les juifs aujourd'hui. Aucun. Le royaume de Dieu, c'est une âme qui rentre en Christ et qui a accès au Père aujourd'hui, peu importe sa nationalité. Les juifs retrouveront des privilèges durant le millénium. Ils vont invoquer le Seigneur. En Zacharie 14 et suivant, on voit que le Seigneur va revenir et régner en Israël. Donc là, la nation d'Israël retrouvera des droits particuliers sur les autres nations. Aujourd'hui, il n'y a plus ni juif ni grec. C'est pour ça que, parce qu'il y a dans certains cercles chrétiens cette idée qu'un juif qui se convertit, c'est quelqu'un qui est doublement béni. Non, non. Galates dit il n'y a plus ni juif ni grec. Pourtant, ils existent encore. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été éradiqués de la terre. Mais spirituellement, il n'y a rien de particulier. Tout comme quand il est dit qu'il n'y a ni homme ni femme, pourtant il y a encore des hommes et des femmes. Mais quand Paul en parle, le fait qu'il n'y ait ni homme ni femme, c'est dans le sens où il n'y a pas de privilège particulier pour un homme ou pour une femme devant Dieu. C'est pour ça qu'en Apocalypse chapitre 1, il est dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs devant Dieu le Père. Sacrificateurs, on pourrait traduire par prêtres, on est tous des prêtres aujourd'hui, hommes et femmes, ce qui était impossible dans l'Ancien Testament. Les femmes ne pouvaient pas être prêtres. Donc en fait, il y a encore des hommes et des femmes. Mais devant Dieu dans les cieux, c'est indifférencié. On est dans la présence de Dieu, comme qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. On est dans la présence de Dieu, qu'on soit juif ou pas. On est dans la présence de Dieu, qu'on soit riche ou pas. On est dans la présence de Dieu, qu'on soit issu d'une famille ou pas. Je dis ça parce que dans Galates, justement, Paul dit, vous vous fatiguez à regarder les généalogies, parce que non seulement il y a cette idée que les juifs sont peut-être supérieurs en tant que croyants, mais en plus de ça, en fonction de la famille, il y a des supérieurs, encore plus supérieurs que d'autres. Moi-même qui ai côtoyé des familles juives dans le cadre de mon travail avant que je sois chrétien, si vous rencontrez par exemple des Cohen, les Cohen, c'est les plus haut placés dans la hiérarchie juive, c'est les descendants d'Aaron. Donc, entre eux, si vous voulez, quand un juif rencontre un Cohen, il y a une forme de respect parce que c'est la famille d'Aaron. Après, vous avez les Lévis, donc c'est la famille des Lévites. Après, vous avez les Shammah, c'est les trois noms et il y a une hiérarchie. Mais devant Dieu, il n'y a plus ça, il n'y a plus Cohen, Lévi, peu importe la tribu dans laquelle vous êtes en tant que juif, puisqu'il n'y a plus ni juif ni grec. Donc, ne prenez pas sur vous la pression de gens qui vous disent « Ah, il faut absolument évangéliser les Juifs » ou « C'est le peuple de Dieu ». Non, le peuple de Dieu, c'est nous aujourd'hui. Nous sommes l'Israël de Dieu aujourd'hui. C'est nous le peuple de Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ ne fait pas partie du peuple de Dieu. Donc on peut avoir un cœur et un ministère pour les Israélites, je dirais, c'est plutôt ce nom-là qu'il faudrait utiliser, tout comme on peut avoir un cœur pour les Anglais, pour les Chinois. Je veux dire, des fois on a un cœur pour un pays ou pour un peuple en particulier, il n'y a aucun souci. Mais ce n'est pas parce qu'on a à cœur un pays ou un peuple que ça leur donne un privilège particulier. Et Israël sera restauré, mais pour l'instant, spirituellement, Israël n'est pas restauré. Aujourd'hui, la Shekinah n'est pas à Jérusalem, le temple n'est pas reconstruit, il n'y a pas la bénédiction de Dieu. C'est simplement un avant-goût de ce qui va se passer dans un futur plus ou moins proche. Et donc on est sensible à ça, bien entendu. Mais spirituellement, le royaume est un royaume invisible. Notre royaume n'est pas de ce monde. Le millénium sera de ce monde. Le millénium, ce sera sur la terre. Mais aujourd'hui, ce royaume n'est pas de ce monde. Donc ne promenez pas la pression de gens qui vous disent, c'est un sous-entendu, qu'on n'est pas spirituel parce qu'on n'a pas cette vision des choses sur ce qu'on appelle les juifs messianiques. Moi, si on utilise le terme juif messianique, utilisons le terme français messianique, suisse messianique, chinois messianique. C'est pareil à ce moment-là. On est tous messianiques. Donc, maintenant que j'ai dit ça, c'est ce que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples. C'est qu'ils vont rentrer dans un ministère où il n'y aura ni juif, ni grec, ou ni juif, ni cananéen. C'est-à-dire que les cananéens auront la possibilité d'être sauvés. Et c'est ce qui va commencer à se faire là, avec cette femme. Et donc, on voit que Jésus provoque, je dirais, l'atmosphère, parce que, dans un premier temps, il garde le silence. Et rappelez-vous, normalement, la bénédiction était sur les Juifs. Donc, elle vient, il garde le silence. Les apôtres se font les avocats de Jésus en disant, enfin, croient être l'avocat de Jésus, en disant, pousse-toi de là, tu nous gênes, on va la renvoyer. Et Jésus se met à parler. Et on dirait que dans un premier temps, qu'il se met au diapason des apôtres. On a l'impression qu'il est d'accord avec eux, contre cette cananéenne, puisqu'il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et en réalité, elle n'avait pas le droit d'utiliser, d'une certaine manière, Jésus, fils de David. Parce que ce titre, Jésus, fils de David, c'est un juif qui a le droit de parler comme ça. Lui est un juif, si le croyant est juif, il voit Jésus, tu es le fils de David, on est de la même famille, on est de la même nation, on est du même peuple. Elle ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Et donc, le terme royal de Jésus-Christ en Israël n'est pas approprié pour elle. Et donc, il le lui rappelle. Toi, tu n'es pas une citoyenne d'Israël, tu es une chienne. Parce que les Juifs considéraient les païens comme des chiens. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, les toutous à sa mémère n'existaient pas. Les chiens domestiques n'existaient pas. On n'était pas vu, les chiens n'étaient pas vus comme des animaux plaisants. Ils étaient considérés comme des animaux impurs. Comparable pour nous aujourd'hui dans notre culture aux hyènes ou aux coyotes. Vous voyez, pour nous, c'est des animaux, où on n'a pas envie d'avoir ça chez nous. Ben, eux, c'était pareil avec les chiens. C'est pour ça, d'ailleurs, que Jean le Baptiste, quand il apostrophe Hérode, il dit d'Hérode que c'est un chien. Pourquoi ? Parce que sa vie est impure. Et donc, traiter cette femme de chienne, c'est la traiter d'impure, ce qu'elle était spirituellement. On est d'accord avec ça, mais c'est quand même assez dur de parler comme ça. Et en disant ça, il sous-entendrait, ce qui n'est pas le cas, on va le comprendre après, que la porte est fermée pour elle. C'est que, fils de David, ça, oui, mais je ne veux pas t'entendre, toi, tu n'es pas mon sujet, tu ne fais pas partie de ma nation. La porte est fermée. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Mais quand je dis c'est vrai de façon plus large. C'est qu'à partir du moment où Adam et Ève ont chuté en Genèse 3, la porte s'est fermée pour tout le monde en réalité. La porte des cieux nous a été entièrement fermée. Et c'est le tort qu'ont eu les Juifs de prétendre qu'ils avaient quelque part quelque chose de noble en eux qui leur donne le droit de rentrer au paradis. Non, c'est simplement que la porte leur avait été ouverte par Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'eux étaient des gens particuliers ou supérieurs aux autres. Et donc là, Jésus remet ça sur le devant de la scène avec une païenne en disant « Mais la porte est fermée, tu es impur ». Je ne vais pas, moi, te donner quelque chose de bon parce que tu es une chienne. Et ça, c'est un point important, c'est qu'on parle souvent de la grâce de Dieu, surtout dans nos églises, mais un point important. Si je vous pose la question, qui a envie d'expérimenter la grâce de Dieu ? C'est tout ? Tout le monde, hein, on veut expérimenter la grâce de Dieu, on est bien d'accord. Mais quelle est la première condition pour pouvoir recevoir la grâce ? Quelle est la première condition ? C'est que, alors, notre état, mais de façon plus précise, c'est d'accepter le fait qu'on ne mérite rien. Comment je peux expérimenter la grâce de Dieu si je pense mériter quelque chose dans un domaine ou dans un autre ? Si, par exemple, je viens vers vous en disant « tu ne pourrais pas m'inviter à manger à midi ?» Si je suis conscient de mon état, c'est-à-dire que je n'ai pas d'argent, je ne sais pas à qui m'adresser, j'ai peut-être fait du mal à la personne à qui je demande un repas. Vous voyez, je lui ai fait du mal, mais maintenant je lui demande une grâce, un repas. Si elle me dit oui, et que moi je suis dans cet état d'esprit de dire « bah merci vraiment, hein, parce qu'après tout ce que je t'ai fait, tu m'offres un repas, en plus tu as vu comment je suis vêtu, je sens mauvais, je suis pas agréable en termes de compagnie, et tu m'invites à manger, tu me donnes à manger, quelle grâce. Mais par contre, si je demande à quelqu'un, tu peux m'inviter à manger, et elle me dit oui, et puis dans moi-même je dis, c'est normal, je veux dire, ma conversation est tellement intéressante. C'est tellement un privilège pour elle de m'accueillir à sa table. Je lui ai demandé par politesse, mais en fait, elle n'avait pas le choix. Hein. Ça fait rire certains. Mais vous voyez, et du coup, je ne le verrais pas comme une grâce, parce que je prétendrais, moi, avoir quelque chose à offrir en échange. Et on peut être un peu comme ça, dans notre relation avec Dieu. C'est qu'on comprend la grâce de Dieu. Oui, Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Et en même temps, il y avait des choses à sauver en moi. Donc, quelque part, ça t'arrange. Tu vois ? C'est à ton avantage aussi de me sauver. Parce que au paradis, un paradis sans moi, c'était pas le paradis. Vous voyez ? Donc, non. Ça en fait rire d'autres. Je sais bien, je vous amuse ce matin. Mais voyez le point, c'est-à-dire que la grâce, si je veux rentrer dans la grâce de Dieu, il ne s'agit pas, excusez-moi, de rentrer dans une forme de pitié de soi, de se fouetter en disant ah, je suis nul. Ça, c'est aussi une œuvre, hein, la flagellation. Non, c'est de dire Seigneur, je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas, et je sais qu'il y a d'autres choses qui ne vont pas mais que je ne vois pas. Il y a peut-être des choses qui vont, mais ça ne durera pas. C'est en gros, je suis né dans l'iniquité, comme dit David au psaume 51. Je suis né dans l'iniquité. Moi, j'aime bien réfléchir à cette, comment dire, l'évolution de Dieu, enfin, à la façon dont Dieu a géré l'histoire. Vous rappelez, en Genèse, le passage du chapitre 6 au chapitre 9, quand il y a le déluge. L'une des raisons pour laquelle, enfin, la raison principale pour laquelle le déluge a lieu, c'est parce que l'homme faisait le mal en permanence. Donc Dieu veut éradiquer la race humaine. Bon, il va en sauver un, ou une famille en tout cas, donc c'est Noé et sa famille. Mais à partir de ce moment-là, malgré tout, il ne va pas permettre que l'homme vive plus que 120 ans. Et on peut se poser la question nous-mêmes. Bon, on se connaît un peu, mais vous avez pour certains 20, 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans. Mais imaginez vivre 5 siècles. Est-ce que votre vie irait en s'améliorant ? Je parle pour un non-croyant, hein. Et je ne parle pas de la vieillesse non plus. Je ne parle pas du fait que... Parce qu'à l'époque, à 500 ans, ils étaient en forme, hein, sans souci. Mais je parle au niveau de votre être, votre âme. C'est que nous, on a une vision, oui, je ne suis pas si mal que ça. Oui, mais tu n'as pas eu beaucoup d'occasion de vivre encore. Mais vis quelques siècles, et on verra s'il n'y a pas des péchés que tu ne commettrais pas. C'est-à-dire qu'en nous, en fait, il y a le potentiel pour le mal en permanence. Et si je réalise, sans pitié de soi, simplement, je dirais presque sans émotion, c'est, il n'y a rien à prendre. Vous savez, c'est un peu comme... Je ne sais pas si vous êtes arrivé des fois de visiter d'être une ferme, enfin de connaître un membre de famille qui a une ferme. Et les paysans, en tout cas à une certaine époque, quand ils avaient leur voiture et qu'elle ne marchait plus, ils en changeaient, mais on gardait l'épave. On ne sait pas pourquoi, mais on ne l'amenait pas chez le carrossier pour la jeter, on la gardait. Alors des fois, vous rentriez dans une grange et sous le foin, là, vous avez une voiture toute poussiéreuse avec du blé au milieu du volant. Enfin, c'est-à-dire que inutilisable. C'est-à-dire, vous regardez la voiture est là, mais on ne va pas l'utiliser pour rouler, on ne va pas la réparer. Même si on vous dit, mais tu sais, il y a une aile, il y a une roue, il y a un pneu. Non mais attends, t'as vu l'état de la voiture, elle est bonne à acheter. Ben nous, c'est pareil. On est un peu comme une voiture usée dans une grange poussiéreuse et il reste des pièces détachées. Et ces pièces détachées nous justifient en disant « Mais quand même, on n'est pas si mauvais que ça. » Non, mais attends, la voiture, elle est morte. Et nous, c'est la même chose. Spirituellement, on est mort. Nous sommes morts dans nos péchés. Ce qui fait que quand on accepte ça, et pas uniquement parce qu'on ouvre les yeux sur cette vérité. Oh, je ne pensais pas que j'étais comme ça. Oh là là, ça arrive parfois que Dieu montre que dans notre cœur, ça ne va pas. Mais parfois, on n'en est même pas conscient. Il suffit simplement de dire au Seigneur, je te crois. Je te crois que je suis irrémédiablement mort. Je te crois que je ne suis pas utilisable de la bonne façon quand je suis en contact avec ton esprit. J'ai besoin d'être régénéré. J'ai besoin d'une nouvelle naissance. Tout comme on a besoin d'une nouvelle voiture. Et donc, de croire par la foi qu'on ne mérite rien, nous aide à recevoir la grâce. On ne peut pas recevoir pleinement la grâce. La grâce, on la reçoit par la foi. On est d'accord, il faut y croire. Mais il faut croire au même niveau au fait qu'on ne mérite rien. Parce que si on pense qu'on mérite un peu quelque chose, on ne vit pas pleinement ce que la grâce est. Et je dirais, c'est presque un processus permanent. Ça fait partie du processus de sanctification. Moi, j'espère, dans quelques années, mieux toucher les profondeurs et les réalités de la grâce qu'aujourd'hui. mais ça va, il va m'être demandé de toucher encore un peu plus la misère de mon existence première, de ce que je suis dans la chair. C'est-à-dire que plus je grandis dans la grâce, plus je diminue. Mais diminuer, ça veut dire ne pas accorder de la valeur à ce que je suis. J'ai de la valeur en tant qu'être vivant devant Dieu. Mais je parle au niveau de la chair, de la descendance d'Adam. Et tout comme cette femme descendait des Cananéens, elle était impure par naissance, elle n'avait pas le droit de citer en Israël. Moi, par nature, descendant d'Adam et Ève, ou descendant de Noé, je n'ai aucun droit. Par nature, et en plus par expérience. L'expérience se découvre, on n'a pas tous la même expérience du péché, mais par nature, on est tous pareils. Nous sommes nés dans l'iniquité. On ne mérite rien. Et ce qui fait que quand on prend conscience de cela, un tant soit peu par la révélation que nous donnent les Écritures, paradoxalement, ça donne du repos. Parce que vous savez, des fois, c'est lourd de porter des bagages, même des bagages qui ont l'air corrects. Je porte mes richesses, je porte mon intellectualisme, je porte mon intelligence, je porte mon héritage familial, je porte mon statut social, je porte... Oui, mais le joug est lourd. Le joug de ma propre existence est trop lourd. Pourquoi ? Parce que j'étais déconnecté de la vie de Dieu. En revanche, quand je m'abandonne et que je prends ma croix, prendre sa croix, ça signifie abandonner sa vie. Ce qui est bon comme ce qui est mauvais. Et du coup, de prendre le joug de Dieu, bah, c'est reposant. C'est reposant. Vous savez, j'ai une annonce à vous faire. Vous pouvez avoir une opinion de moi. Bonne, mauvaise, entre les deux. Mais je vais vous rassurer, je suis pire que ce que vous pensez. Je suis pire que ce que vous pensez. Je suis pire que ce que je pense de moi. Donc je ne l'ai peut-être pas découvert, vous ne l'avez peut-être pas découvert, à mon sujet, mais c'est un fait, c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous sommes malades, Ésaïe, chapitre 1, verset 6, nous sommes malades de la racine des cheveux jusqu'à la plante des pieds. Tout le corps est malade. Donc, encore une fois, je peux être chez le médecin et moi dire, mais moi ça va. Et le médecin, lui, il regarde le scanner, il regarde la radio, il dit, non, ça va pas du tout. Mais moi, si, ça va. Donc j'ai deux possibilités. Ou j'ai confiance dans mon expérience, alors que je suis malade. Je dis, non, j'ai pas besoin de traitement, regardez, je vais très bien. Ou alors je crois le médecin, parce que lui me voit malade. Et du coup, j'écoute ses conseils. De la même manière, Dieu me voit malade dans ma nature pécheresse, mais il me voit parfait en Christ. Donc j'ai du mal à être objectif sur ma maladie charnelle, mais j'ai du mal à être objectif sur ma nouvelle naissance aussi. C'est-à-dire que dans mon expérience, je ne suis pas objectif que ça soit concernant le mal qui est en moi et concernant ce qui est spirituel en moi. Donc j'ai besoin de croire Dieu. Quand Dieu me dit que je suis malade dans ma chair, je le crois, mais quand il me dit qu'en Christ je suis une nouvelle créature et qu'il ne voit aucune iniquité en Israël ou dans ma vie, je le crois aussi. Si la parole de Dieu me dit que le sang de Christ me purifie de tout péché, je le crois. Je ne le ressens pas, mais je le crois. Et c'est pour ça que la révélation est importante. Nous, et ça c'est pas un péché, c'est la façon dont nous sommes nés, de façon naturelle, la révélation elle se fait que par l'expérience. D'accord ? Je lis un livre, j'expérimente quelque chose, je prends des décisions, des situations m'arrivent, bonnes ou mauvaises, et j'apprends, j'expérimente. Mais Dieu, lui, nous révèle sa propre expérience, sa sagesse. Et parce que nous marchons par la foi et en fonction de ce que la parole de Dieu dit, on peut marcher dans la vérité. Et donc, cette femme était consciente de ce qu'elle était, ce qui fait que, alors que Jésus lui dit, mais on ne va pas donner de la nourriture aux chiens, parce que toi, t'en es une. Elle fait pas d'objection. Et elle change même de discours. Au lieu d'utiliser l'expression « fils de David » que seuls les Juifs étaient accrédités, enfin habilités à utiliser, regardez ce qu'elle dit. Elle vint, verset 25, « Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » C'est que, paradoxalement, elle s'approche alors que c'est une chienne, alors qu'elle est impure. Alors que lui, c'est le Messie, le Sauveur, le Saint des Saints, elle s'approche, elle se prosterne. Je veux dire, moi, s'il y a quelqu'un qui me dit, attends, moi, je ne vais pas te donner le salut, la grâce, parce qu'on ne donne pas ça aux chiens, je serais peut-être déçu, mais je vais dire, bon, ok, je m'en vais, hein, c'est pas la peine. Elle, c'est le contraire, elle s'approche. Non seulement elle s'approche, elle se prosterne, c'est-à-dire qu'elle rentre de plus en plus dans un processus d'humilité. Elle accepte sa condition. et elle utilise le mot Seigneur, un nom que toute l'humanité peut utiliser. C'est de croire qu'il est le créateur des cieux et de la terre, celui qui a tout entre ses mains, qui a créé l'État d'Israël. C'est-à-dire que les Juifs devaient aussi, normalement, auraient dû avoir conscience de ça. C'est pas Israël qui les rendait purs, c'est parce que Dieu avait créé Israël et qu'ils avaient appelé par Abraham, par Moïse, etc. Donc en fait, c'est Dieu qui a créé toute chose. Et donc elle se met à ça, elle s'adresse à lui avec le nom le plus haut élevé qui soit, ce qui fait qu'elle le reconnaît comme le Messie. Chose que les Juifs ne font pas. Ils ont tendance à, majoritairement, à le rejeter. Et donc elle se prosterne et elle utilise le mot kurios. Seigneur. Seigneur. Et vous savez, nous, des fois, on a tendance à penser que c'est injuste, mais en même temps, l'injustice, une forme d'injustice nous arrange. C'est que c'est Dieu qui a établi les lois. Nous sommes d'accord. Enfin, je parle de la loi de Moïse. C'est lui qui l'a donnée. C'est lui qui a créé l'État d'Israël, enfin, la nation d'Israël. C'est lui qui a suscité les Juifs du sein d'Abraham. C'est lui qui a fait des promesses à Israël. Donc, quelque part, elle lui demande de se contredire. Non, en fait, Dieu ne se contredit pas. Il est la loi. Il fait ce qu'il veut. Il est souverain au-dessus de la loi même de Moïse. Ça ne veut pas dire qu'il pêche ou qu'il transgresse la loi, mais la loi est une vision réductrice de Dieu. C'est une partie de Dieu, la loi. C'est une partie de son caractère. C'est une partie de la vérité. Mais ce n'est pas toute la vérité. La vérité, c'est en Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est-à-dire que la vérité, c'est une relation. La vérité, c'est une rencontre. C'est une vie. Et donc, c'est cette vie qu'elle veut, au-delà de son statut. C'est-à-dire qu'elle est prête à accepter le fait que ça soit une cananéenne. Ok, je suis d'accord avec toi, Seigneur, je suis impur. Mais en même temps, je refuse que tu me vois uniquement en tant que tel. Je t'appelle Seigneur, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui as créé les cieux et la terre, c'est toi qui as créé la loi, c'est toi qui as suscité Moïse, c'est au-dessus, et si tu as envie de me donner la grâce, t'es capable de le faire. C'est pas la loi de Moïse qui t'empêchera de me donner la grâce, c'est pas la nation d'Israël qui empêchera une cananéenne d'être sauvée. C'est pas parce que tu as des exigences saintes que moi, pécheresse, je peux pas recevoir la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce, justement, se donne à des gens qui ne le méritent pas. Moi, je ne le mérite pas, je suis cananéenne, j'ai une vie peut-être qui n'est pas en conformité avec ta volonté, je ne suis pas du parti du peuple juif, je ne suis pas en terre sainte, j'ai rien à te proposer, mais je crois que ton nom, ta personne, ce que tu es, va au-delà de ma misère et tu peux me donner la grâce. J'ai la foi. Donc, question qui se pose pour nous, est-ce que vous pensez que Dieu peut vous donner la grâce? Alors, la plupart d'entre nous, j'espère, sommes sauvés. Si ce n'est pas le cas, acceptez la grâce, peu importe votre existence. Peu importe vos dons, vos capacités, votre passé, vos erreurs, vos bonnes œuvres. Oubliez tout. Dans l'instant présent, rencontrez la grâce de Dieu qui peut changer la vie. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et pour nous qui sommes croyants, mais qui parfois dans notre quotidien, dans notre relation avec Dieu, avec nos hauts et nos bas, on a du mal à recevoir la grâce de Dieu. Et des fois, vous savez, où c'est plus subtil, c'est que parfois, un chrétien qui connaît le Seigneur depuis quelques années, qui a été enseigné, qui a, pour le peu qu'il ait fait l'Institut biblique, il a été missionnaire, il a un charisme particulier, il a un ministère dans l'Église, il pense que maintenant, il a des choses à offrir à Dieu. Avant ma vie, mais là maintenant quand même, ça fait quelques années, c'est chouette, hein? Ah ouais, mais du coup je ne ressens plus la grâce de Dieu dans ma vie. Parce qu'en fait, j'apporte à Dieu une monnaie d'échange. Qu'en fait, et alors que c'est son œuvre en moi, qui m'a permis de produire de bons fruits. Mais pourquoi ces bons fruits maintenant je les utiliserais pour qu'il m'accepte? Non, la relation avec Dieu aujourd'hui, malgré mon nombre d'années de conversion, c'est uniquement la grâce de Dieu. Parce que la sainteté de Dieu est tellement grande que je ne pourrai jamais justifier ma présence auprès du Père. La seule façon de me justifier dans la présence du Père, c'est de dire « j'ai un ami avec moi, j'ai Jésus-Christ qui a accompli la loi pour moi. » C'est une grâce, c'est la grâce et la vérité. Moi, je n'ai pas la vérité en moi, mais en lui, en Jésus-Christ, il y a la vérité. Moi, je n'accomplis pas la loi, je ne peux pas. Oui, mais Jésus accomplit la loi pour moi. Moi, ma vie, elle a des hauts et des bas, mais devant ta justice et ta sainteté, ça ne suffit pas. Mais Christ, lui, ça suffit. Pas besoin d'ajouter plus. Et donc, c'est par toi, Seigneur, que je me présente chaque jour de mon existence. Même si je suis un bon petit chrétien qui donne sa dîme, même au-delà, qui évangélise, qui ne trompe pas sa femme, qui élève ses enfants, qui donne un coup de peinture quand il faut, etc. Il y a tout ça. Mais ça, ça ne compte pas dans ta présence. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est Jésus-Christ. Je rentre dans ta présence par Jésus-Christ. Ce qui fait que penser ainsi, ça nous aide, alors qu'on a peut-être un bail de vie chrétienne, de continuer de recevoir la grâce comme au premier jour. Une des raisons qui fait qu'on se dit « mais je suis chrétien depuis longtemps et il y a moins la joie de mon salut qu'avant, ça ne va pas, etc. » Comment ça se fait, Seigneur ? Tout simplement parce que tu ne vis plus dans la grâce. Tu te dis « ah, oh, j'ai encore pensé ça aujourd'hui, je ne devrais plus après tant d'années de christianisme. » Non, mais tu ne devrais pas depuis ta naissance, de toute manière. Tu ne devrais pas. Mais Christ a payé pour ça. Christ a payé pour ça. Il a payé pour tes péchés en tant que non-croyant et il a payé pour tes péchés en tant que croyant. Un péché de croyant ne coûte pas plus cher. Simplement, on est plus responsable, c'est vrai, parce qu'on a plus de connaissances. Mais c'est le même péché. Et Jésus, c'est le même sang qui purifie. Il n'y a pas le sang qui purifie mes péchés avant ma conversion et après, c'est les bonnes œuvres qui purifient. Ça s'appelle vouloir garder son salut, d'une certaine manière. Non, je viens dans la présence de Dieu parce que aujourd'hui, un jour de plus, Christ est pour moi, il est mon avocat. Il ne démissionne pas. Il ne va pas arriver un matin en disant au Père, « Bon, lui, je ne le défends plus. Hein. C'est bon, il faut qu'il trouve un autre avocat. J'arrête. » Non, d'une certaine manière, pour utiliser les termes juridiques en France, je ne sais pas si c'est le même terme en Suisse, Jésus a été notre avocat commis d'office. C'est lui qui a été imposé dans la Trinité. Il n'y en a pas d'autre, commis d'office. Et c'est intéressant. Là, je suis en train de... Ça vient, là. Je n'avais pas prévu de parler de ça. Mais regardez, quand on réfléchit, un avocat commis d'office, quand est-ce qu'on nous le donne ? Quand on n'a pas d'argent pour s'en payer un. Mais comme on n'a pas d'argent pour s'en payer un, mais qu'un justiciable doit être défendu, l'État paye des avocats commis d'office. Eh bien, nous, on n'avait pas d'argent pour se payer un avocat. Et mes amis, ce n'est pas parce qu'on a 20 ans de christianisme qu'on a de l'argent pour se payer un avocat. Les œuvres, ce n'est pas une monnaie qui nous permet d'être défendus. Notre christianisme, notre dénomination, notre justice propre ne nous permet pas de nous tenir dans la présence de Dieu. Mais on a un avocat commis d'office qui travaille gratuitement pour nous. Sauf que dans le système juridique français, les avocats commis d'office, ce n'est pas toujours les meilleurs. Mais dans le royaume de Dieu... C'est le meilleur. C'est le meilleur. Et on n'en veut pas un autre. Et en plus, on sait que Christ a envie de nous défendre. On n'est pas des anonymes. Donc on voit que si elle ne peut pas s'approcher de Jésus en tant que juive, parce qu'elle ne l'est pas, elle peut s'approcher de Jésus en tant que créature devant son Créateur. Seigneur. Seigneur. Et donc, verset 26, Jésus lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est-à-dire qu'en fait, il lui dit, ça te disqualifie ton statut. Et regardez ce qu'elle dit, son argument, verset 27. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et alors, ça ressemble un peu, le sujet n'est pas le même, l'histoire, vous savez, de Lazare et de l'homme riche. Vous vous souvenez, Lazare qui est sous la table et qui mange les miettes parce que ce monde ne peut lui donner que des miettes. Et on sait que lui est sauvé, alors que l'homme riche ne l'est pas, lui qui mange sur la table. Mais là, il y a une différence aussi, c'est-à-dire que les miettes que le monde nous donne, ça ne suffira jamais. Dans ce monde, on a besoin de manger à table. On a besoin d'avoir une assiette remplie. On a des besoins. Et qui, des fois, ne nous comble pas suffisamment. Mais par contre, si vous êtes en dessous de la table et que vous n'avez que les miettes, ça vous comble encore moins. C'est-à-dire qu'un mendiant qui est obligé de manger les miettes, il a encore faim le soir. Par contre, avec la grâce de Dieu, une miette suffit. Une miette de grâce me sauve. une miette de grâce pour me sauve. Pourquoi ? Parce que la grâce, c'est la grâce. C'est pas petite ou grande grâce. Et donc, elle dit, mais ok, tu veux bénir ta nation, sois. Mais comme tu en as plus encore de grâce, eh ben, ce qui va déborder, ce qui va être en plus, suffira. Et donc, c'est intéressant parce que d'un côté, un petit peu de foi peut déplacer des montagnes et un petit peu de grâce peut sauver. Sauf que elle, Jésus va dire d'elle qu'elle a eu une grande foi. Mais vous voyez le point, c'est-à-dire que la grâce, comment dire, elle va toucher les gens dans leurs plus basses conditions, mais aussi c'est une manière de dire que la grâce, c'est pas quantifiable. C'est ça suffit. Ça suffit. C'est comme si vous aviez un antidote alors que vous avez reçu un poison en vous. Bah, l'antidote, quelques gouttes suffisent. Vous pouvez boire un litre si vous voulez, mais quelques gouttes suffisent. La grâce de Dieu, elle est en train de dire, mais elle déborde d'abord, et ce qui déborde sauve de toute manière. Ça sauve de toute manière. Et c'est en cela qu'elle a eu une grande foi. Parce qu'elle croyait que la nature même de Dieu, le caractère de Dieu, allait bien au-delà de la loi de Moïse. Allait bien au-delà des bénédictions faites à Israël. Que la grâce de Dieu pouvait déborder à des gens qui accomplissaient pas la loi, qui passaient par le feu leurs enfants, qui avaient des idoles diverses et variées, qui avaient une vie inique, mais que cette grâce était suffisante même pour toucher des gens comme elle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans un état où la grâce ne peut pas vous toucher. C'est impossible. Alors vous dites, oui, mais je suis tellement éloigné de Dieu, la grâce est là-bas et moi je suis très loin. Oui, mais elle déborde suffisamment, elle s'étend suffisamment pour vous donner la vie. Elle s'étend suffisamment pour que vous puissiez toucher à la vérité. Et donc, qu'est-ce que dit Jésus au verset 28 ? Ta foi est grande. C'est intéressant parce qu'il semble y avoir des contradictions des fois, même dans la bouche de Jésus. Rappelez ce passage où justement les apôtres demandent comment avoir la foi, ou augmente-nous la foi, voilà c'est ça la question, augmente-nous la foi. Jésus dit un petit peu de foi suffit, il n'y a pas besoin d'en avoir une grande, vous rappelez de ça. Mais là, mais plusieurs fois, c'est le cas de le dire, mais là c'est FOIS, plusieurs fois il va dire, par exemple le centenier, j'ai jamais vu une foi aussi grande en Israël. Et là, il dit « ta foi est grande ». Donc, une grande foi, ça existe quand même. Simplement, Jésus dit « un peu de foi suffit », comme « un peu de grâce suffit ». Mais, même si ça suffit, il y en a qui ont une grande foi. Et vous remarquerez que ça soit le centenier, enfin le romain, ou cette femme cananéenne, ce sont deux païens qui ont une grande foi. Ce n'est pas des juifs. C'est-à-dire que ces gens avaient plus discerné le caractère de Dieu que les juifs eux-mêmes. Et ça, ça doit nous interpeller. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Dieu, parfois, nous communique sa volonté pour que nous vivions dans ce monde. Nous sommes des êtres matériels, on est limité dans l'espace, dans le temps. Donc, par exemple, là, on se réunit, nous, ici, entre 10h30 et midi, le dimanche matin. Est-ce que c'est spirituel de se réunir ? Oui. Est-ce que c'est bien d'avoir un culte en milieu de semaine ? Oui. Est-ce que c'est bien d'avoir des temps de prière, d'évangélisation, de tout ça ? Tout ça, c'est bien. Dieu est pour ça. Mais notre emploi du temps, notre vie chrétienne, c'est pas Dieu. Dieu est au-dessus de notre emploi du temps. Il est au-dessus de notre vie chrétienne. Et parfois, on pense que c'est l'organisation spirituelle des choses dans un monde matériel, que cette organisation suffit à connaître Dieu, suffit à être dans la volonté de Dieu. Alors que Dieu est bien au-delà. Ce qui fait que, je vous encourage pas à le faire, mais ça peut arriver. Peut-être qu'un jour, vous pouvez pas venir à un culte un dimanche matin pour des très bonnes raisons. Et vous êtes quand même spirituel, parce que Dieu est au-delà. Et on peut multiplier les exemples. Mais des fois, nous, ce qui est formel, ce qui est visible en fait, ce qui nous évite de marcher par la foi, on pense que ce qui est visible suffit. Et les Juifs avaient leur culte, leur temple, les rabbins, le sabbat respecté le samedi, et tout ça, ils pensaient que c'était Dieu. Alors qu'en fait, c'était un outil pour adorer Dieu. Mais Dieu était au-delà du sabbat. Et c'est pour ça que quand Jésus guérit un jour de sabbat, pourquoi qu'est-ce qu'il leur montre là ? C'est que Dieu est au-delà du sabbat. C'est que si le fait de te reposer amène une personne à mourir, t'as pas compris l'esprit de la loi. La loi, c'est pour que tu puisses te reposer. Mais par contre, si tu dois, entre guillemets, travailler, c'est-à-dire faire un miracle, ou faire du bien à ton prochain, un jour de sabbat pour lui donner la vie est plus importante que ton repos. Mais pour les gens qui connaissent Dieu, ils comprennent ça. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il va rester sur le sabbat de peur de ne plus être en Dieu, ce qui est complètement faux. Donc des fois, nous, on peut être pris, mettons qu'on se donne comme règle de prier un quart d'heure par jour, ou une demi-heure par jour, peu importe. C'est bien. Mais si votre enfant a un besoin ce jour-là, il a une question existentielle, il a une tristesse, etc., et il vous interrompt parce qu'il a envie de parler avec vous, vous n'allez pas lui dire « Attends, j'ai ma demi-heure de prière, et puis après, il faut que tu ailles à l'école, donc tu me parleras plus tard. » On détruit la vie, peut-être. On détruit la relation. Et ce n'est pas le cœur de Dieu, parce que Dieu voulait peut-être répondre au travers de vous à la question de votre enfant. Donc, c'est important d'être conduit par l'esprit. Vous voyez ? Et donc, ce point est très important. Et les apôtres, eux aussi, se font prendre au piège. En disant que ce n'est pas possible. Dieu, il est comme dans une boîte. Nous, nous sommes dans la boîte. Elle, elle n'est pas dans la boîte. Alors que la personne spirituelle dit « Dieu est au-delà de ça ». On voit ça déjà dans l'Ancien Testament. Hein, il n'y a pas que dans le Nouveau. Rappelez-vous le passage où David, vous savez, guerroie des armées ennemies, alors qu'en même temps, il y a Saül qui est contre lui. Et puis, à un moment donné, sa troupe n'a pas mangé depuis un moment. Et il y a un sacrificateur qui leur donne des pains de proposition. C'est en dehors de la loi. Les pains de proposition étaient normalement dans le lieu saint présentés devant Dieu, et au bout d'une semaine, ils devaient être changés. Et ces pains de proposition qui étaient restés une semaine dans la présence de Dieu, après, c'est les prêtres, les sacrificateurs qui pouvaient les manger. Donc c'était de la nourriture réservée aux sacrificateurs. Alors, ce qui est sûr, c'est que David s'est quand même soumis aux sacrificateurs. C'est le sacrificateur qui lui a donné les pains. Donc David, il n'a pas pris les pains de lui-même. Donc il est resté sous l'autorité. Mais ce sacrificateur a eu une intelligence spirituelle. C'est-à-dire que même si la loi disait « les sacrificateurs doivent manger le pain et pas les autres », oui, mais lui, ce jour-là, il avait peut-être son ventre plein et l'armée de David avait le ventre vide et il a réalisé que la loi risquait d'amener la mort. Et c'était pas le cœur de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les pains de proposition. Et Dieu lui en a pas voulu. Alors qu'on était dans l'Ancien Testament, on était sous la loi de Moïse. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Alors après, de façon pratique, c'est un peu la même chose pour nous. Il y a plein de domaines où on échoue, il y a plein de domaines où on ne respecte même pas notre propre loi. Bon, grandissons, demandons l'aide de Dieu. Néanmoins, les petites miettes qui tombent par terre, je peux les prendre pour moi. Dieu me donne sa grâce et sa grâce est suffisante. Sa grâce est suffisante. Il est avec moi. Parce que de toute façon, même si j'avais réussi ma journée, c'est pas ça qui m'autorisait à rentrer dans la présence de Dieu. Ce qui est important, c'est de s'humilier. C'est pas de dire « Seigneur, oui, j'ai passé une mauvaise journée, mais enfin, ça fait quand même 2 mois que je suis spirituel, donc tu peux écouter mes prières. » Non, aujourd'hui, c'est Christ qui permet au Père d'écouter mes prières. Et donc, elle croyait que la grâce de Dieu pouvait aller jusqu'à elle, peu importe sa condition. Vous savez, en psaume 51,17, c'est le psaume que David a écrit après avoir commis meurtre et adultère, et il a écrit ce psaume de repentance, et au verset 17 de ce psaume 51, il est écrit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » Et cette femme avait un esprit brisé. Elle savait où elle en était. « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Tu ne le dédaignes pas. Rappelez-vous, je vous avais dit en Jean 6 hier matin que Jésus ne rejettera jamais ceux qui viennent à lui. C'est le même principe. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Le problème, c'est quand on vit dans notre justice propre, on n'a pas le cœur brisé et contrit. Et donc, c'est un cœur que Dieu n'accepte pas. Et l'on voit qu'elle a obtenu la bénédiction qu'elle désirait. En verset 28, qu'est-ce que Jésus dit ? Qu'il soit fait comme tu veux. C'est-à-dire qu'il y a eu une réponse à sa prière. Et ça, c'est merveilleux. Et je terminerai cette série qu'on a commencé hier matin par une pensée qui est de se dire, de ne pas rater les occasions de la grâce. Et il y a deux phases dans ce que je suis en train de dire, deux facettes. C'est d'abord de bien comprendre ce que la grâce de Dieu peut faire et jusqu'où elle peut aller. C'est ça qu'il ne faut pas rater. Est-ce que je crois que la grâce de Dieu peut aller jusqu'à mon existence, jusqu'à toucher mon cœur? Est-ce que je crois ça? Est-ce que je crois que la grâce de Dieu peut aller jusque-là? Ou quelque part, moi, je suis une barrière à la grâce de Dieu. Moi, c'est trop, c'est pas possible. Donc c'est ça, ne pas rater les opportunités. C'est que la grâce de Dieu m'est favorable en permanence, elle est pour moi en permanence. Et la deuxième chose, c'est les occasions aussi, je dirais, les instants d'éternité qui viennent dans le temps présent. Cette femme, elle s'est levée le matin, elle s'est levée en pensant à sa fille qui était tourmentée par un démon. Une journée encore en plus. Alors on ne connaît pas les détails, mais comme je le disais hier, quand on voit les autres exemples de démons qui tourmentent des hommes, on voit qu'ils les jettent contre les murs, ils les jettent dans un foyer en feu, ils sont dans les sépulcres en train de faire des scarifications. Donc on voit qu'être tourmenté par un démon, c'est violent même physiquement. Et donc cette femme, elle se lève le matin, et puis elle a en même temps des choses à faire. On ne connaît pas sa vie, mais on peut penser que c'était difficile. Elle était sans espoir. Et à un moment donné, elle entend dire que le Messie qui vient en Israël, là, qui est en train de faire des vagues, qui prêche un peu partout, il y a un prédicateur, là, il y a les foules qui le suivent, il se passe des choses. Mais c'est en Israël. Elle est à Tyré-Sidon. Mais ce personnage arrive sur ces terres. Il ne faut pas rater l'occasion. Il ne faut pas rater l'occasion. J'y vais. Donc elle n'a pas raté l'occasion de la grâce en termes de géolocalisation, pour utiliser une expression moderne, c'est-à-dire qu'elle a saisi l'opportunité cette journée-là de venir vers Jésus. La veille, elle ne pouvait pas, il n'était pas là. Le lendemain, il ne serait plus là. Elle s'est saisie de l'occasion. Et elle s'est saisie de l'occasion aussi de croire dans la définition de la grâce. C'est que la grâce va au-delà de notre condition. Elle a cru. Elle a agi, elle s'est approchée et elle a cru. Et peut-être que vous, c'est ce matin où vous avez peut-être une révélation sur un point dans votre vie, un détail. Dans le temps et dans l'espace, Dieu vous parle, saisissez l'occasion. Peut-être ce sera dans quelques jours. Il y a des portes qui s'ouvrent, empruntez-la. Empruntez la porte de la grâce et de la vérité. Saisissez la vie. Il y a cette possibilité pour nous tous. Et cette femme, sans droit de cité en Israël, sans espérance, sans promesse, elle est repartie avec une promesse extraordinaire. Ma fille est guérie, j'ai un Seigneur sur ma vie maintenant, j'ai la vie éternelle. Sa condition n'a peut-être pas beaucoup changé, mais elle a saisi l'occasion de la grâce. Une miette, et c'est une nouvelle vie qui commence. Une miette de grâce, c'est une nouvelle vie qui commence. Que Dieu vous bénisse. Merci.